Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous dans cette institution vénérable et surtout dans cette institution que je vénère. Et je remercie les organisateurs, les professeurs au Collège de France de m'avoir invité et de m'avoir confié le redoutable honneur de prononcer la dernière communication. Ce sera donc une communication en termes d'atterrissage que je vous proposerai, mais je dois vous prévenir que, de même qu'on a décollé comme une fusée avec Philippe Aguillon en commençant l'après-midi, la procédure d'atterrissage sera une procédure d'urgence, car l'endroit où je vais vous amener est un endroit où, malheureusement, les procédures de sécurité sont assez faibles et on constate tous les jours des crashs. Et donc, ce terrain d'atterrissage, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand les formes d'intelligence dont nous parlons depuis hier matin, c'est quand les formes d'intelligence atterrissent dans la pratique. Mais moi, je vais vous parler d'une chose tout à fait précise là-dedans, c'est quand ces formes de l'IA sont utilisées pour gouverner ou pour juger, c'est-à-dire donc les risques du gouvernement à l'aide de l'IA, quand on passe en quelque sorte de très beaux outils mis en place par les mathématiciens et les ingénieurs à l'idée que ces outils pourraient beaucoup mieux que les hommes politiques dont on, les femmes politiques dont on conteste beaucoup pour le moment les compétences et l'intégrité, et que donc ce serait tellement plus facile d'être gouverné par des IA. Des sondages montrent que les citoyens sont d'ailleurs tout à fait d'accord, et bizarrement, je n'ai pas d'explication, plus vous montez vers le nord en Europe, plus ce pourcentage augmente pour culminer aux Pays-Bas et chez nos amis des îles britanniques. Alors, ce que je voudrais faire, c'est commencer quand même, on a dit dès le départ dans ce colloque, c'était le contrat de faire le lien entre, de ne pas se limiter à l'IA, mais de faire le lien avec les formes d'intelligence sur la longue durée. Alors, ce qui caractérise les formes d'intelligence juridique moderne, au sens scolaire du terme, c'est qu'en réalité, elles sont très proches, elles sont d'une certaine manière indexées aux formes d'intelligence des sciences. Il y a là notamment une volonté de légitimation du droit, qui pourtant, avec la modernité, c'est la souveraineté. Le juge est le délégué du souverain. Il peut, sa décision s'impose par la délégation de souveraineté qu'il reçoit, et en même temps, paradoxalement, le juge n'a jamais tant voulu, ou du moins les théoriciens n'ont jamais tant voulu montrer que pas du tout. Ce jugement n'est pas un acte d'autorité, c'est un acte de rationalité. Et comment le montrer mieux à l'ère scientifique, à l'ère moderne, que de l'indexer sur la science de l'époque en vogue. Alors ça donne des modèles de rationalité, des formes d'intelligence juridique très différentes que nous n'aurons pas le temps d'examiner aujourd'hui, mais qui vont alterner selon deux grands formes d'intelligence dont on a déjà parlé ce matin, c'est-à-dire d'une part l'interprétation et d'autre part, mais il existe des modèles d'interprétation très divers, j'adorerais vous en parler, ce sera pour une prochaine fois, et d'autre part des modèles de formalisation. Alors l'interprétation consiste à prendre un texte et à le faire parler pour qu'il nous donne, le faire parler d'ailleurs parfois sous la torture, pour qu'il nous donne la réponse à un cas qui se pose à nous et dont la réponse doit être fondée sur l'autorité du texte. Donc, on va trouver tout un tas de moyens. Certains nous semblent, à une certaine époque, très rationnels, d'autres complètement fous. Mais on va trouver des moyens, des méthodes d'aller trouver, extraire cette solution depuis le texte. Et on va d'ailleurs produire des textes au départ du texte, c'est les chaînes de commentaires, tout ça, Michel Foucault en a très bien parlé, à la fois dans les mots et les choses, mais aussi dans l'ordre du discours, dans sa fameuse leçon inaugurale en ces lieux-ci. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est, mais aussi, je voulais saluer l'exposé de ce matin, mais aussi, on va, ce qu'il estime Foucault, interpréter et formaliser les deux grandes formes de connaissance de notre âge, ce matin, Anne a déjà nous a montré que Hermès était à la fois le dieu de l'écriture, mais des messages, et donc de l'interprétation, l'herméneutique, mais qu'il était aussi le dieu du calcul, et donc qu'il avait à voir avec la formalisation. Eh bien, en droit, vous allez avoir, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça dans le détail, mais vous allez avoir au cours de l'histoire une alternance entre des modèles d'interprétation, auxquels on associe, tout le monde associe le droit à cela, mais il va y avoir aussi des modèles de formalisation sur lesquels j'aimerais dire un mot, parce que l'IA actuel en droit se nourrit de ses prédécesseurs. Et cela va commencer dès le début de la modernité, nous sommes en 1604, donc on est avant Galilée, on est avant les grands textes de Descartes, on est en 1604 et on a l'idée, dans le contexte de la réforme qui fait que l'Europe n'a plus d'unité religieuse, eh bien, un certain Grotius, Hugo de Groot, des Pays-Bas déjà, avait l'idée que pour résoudre les affaires internationales, il fallait avoir recours à un droit laïcisé qui vaudrait quand bien même Dieu n'existerait pas, ce qui ne peut se dire sans un scandale affreux, je cite Grotius, mais enfin, la chose est dite, et donc un droit laïque, qui reposerait sur la seule force de la raison, et cette raison, il en puise le modèle, comme vont faire beaucoup d'auteurs au XVIIe siècle, dans la redécouverte du fameux ouvrage d'Euclide, Les éléments, et c'est pour ça qu'on va parler d'un modèle géométrique de la raison juridique, hein, on va avoir le raisonnement moré géométrico à la manière des géomètres qui va consister pour résoudre un cas à dire mais en réalité il ne faut pas procéder à la discussion contradictoire qui était la méthode ancienne des juristes et d'ailleurs de tous les autres scientifiques dans l'université médiévale mais il faut construire quelque chose de nouveau qui est un système de règles, déduit de la raison, au départ des premières définitions, on va découvrir les principes généraux du droit, je vous en ai mis là quelques exemples partiels, et de là, on va déduire les règles particulières, et de là, et ça c'est toujours le point crucial, c'est le point que n'aurait pas admis Aristote, et peut-être avait-il raison, et de là, on déduira la solution des cas singuliers, puisque vous savez que pour Aristote, il n'y a de science que du général. Alors ce modèle-là, et on pourrait penser qu'il n'est que métaphorique. C'est tant que je reprends encore phrase ici de Foucault, mais en fait, il va puissamment influencer le droit moderne, puisque les juristes vont se mettre à changer complètement, j'allais dire, leur logiciel, vont se mettre à penser tout à fait autrement. On ne va plus discuter de cas douteux. On va établir un système de règles, on va, dit Jean Doma, qui est pensionné pour ce faire par Louis XIV, et évidemment il y a un projet politique derrière, il y a toujours un projet politique derrière chaque forme de l'intelligence juridique, c'est vain de vouloir les distinguer, c'est même intéressant de pouvoir les combiner. Et donc Jean Doma va mettre les lois civiles dans leur ordre naturel, hein, on garde cette idée de la mise en ordre qui va déboucher en fait, beaucoup plus tard, sur la codification moderne, qui n'a rien à voir avec les codes anciens comme ceux de Justinien, en tant que c'est un système articulé de règles qui se veut univoque, cohérent, et complet, c'est-à-dire qui n'admet pas les lacunes. Mais celui qui va pousser l'affaire la plus loin et, d'une certaine manière, anticiper ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le grand Leibniz, deuxième partie du XVIIe siècle. Vous savez que c'est à la fois un mathématicien de génie, mais c'est aussi un juriste. Un juriste qui a été formé comme juriste, mais qui a pratiqué comme juriste. Il détestait les avocats. Parce que leurs arguties, ça n'allait pas du tout. Et donc, il a aussi fait des plans pour réduire soit le droit romain, soit le droit germanique, mais à l'époque, ça n'est pas si éloigné, je passe, dans une seule table synoptique, hein, pour voir toutes les règles d'un coup, mais il va également se concentrer sur des méthodes pour trancher le droit de manière scientifique. Et donc, il pensait qu'on pouvait juger du juste et de l'injuste aussi incontestablement que dans les mathématiques. Donc, vous voyez que son niveau de confiance part très, très haut. Certains sont revenus à ce très haut niveau de confiance et que ce qui nous manque, c'est de rassembler assez de données. Mais une fois qu'on aura, en fait, il va cumuler trois choses. Il va cumuler des datas, mais là, il sait qu'il lui en faut, mais il lui manque, il n'a pas les capteurs. Il faut ensuite une caractéristica universaliste, c'est-à-dire créer les catégories, hein, comme on a vu hier matin avec Stéphane Mala et avec Stanislas Dehaene. Il faut créer des catégories et puis un ars combinatoria, c'est-à-dire après il faut calculer, et là il lui aurait manqué de toute façon la puissance de calcul très très sérieusement. Mais enfin l'idée est là. Le schéma est là, et une fois qu'on sera arrivé à ça, eh bien, il ne sera plus besoin entre deux philosophes, mais non plus entre deux juristes, de plus longues discussions qu'entre deux mathématiciens, puisqu'il suffira qu'ils saisissent leurs plumes, qu'ils s'asseyent à leur table de calcul en faisant appel, s'ils le souhaitent, à un ami. Donc, Leibniz connaissait déjà la procédure d'appel à un ami, c'est lui qui l'a découvert, et qu'ils se disent l'un à l'autre, calculons. Et il y a aussi des articles de Leibniz, des passages de Leibniz, où il propose cela pour les juristes. Donc vous voyez que le rêve, il est là. Il est là déjà en... allez, mettons les choses dans le vieux Leibniz, 1700. Hein? Donc, ce n'est pas nouveau comme idée. Et puis, il va y avoir un deuxième modèle de formalisation entrecoupé. Là-dedans, vous avez des modèles d'interprétation dont je ne dis pas un mot. Mais vous allez avoir une deuxième tentative dont je ne vous mets ici sur le tableau que l'aboutissement du côté après la guerre, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un modèle qui a commencé au 19e siècle et qui est une nouvelle conception du droit dans lequel le droit est un instrument de gestion de la société, dans lequel il va falloir rentrer des datas qui sont les statistiques au niveau de l'État, et on va, grâce au calcul des probabilités, pouvoir estimer un certain nombre de régularités sociales, j'y reviendrai à la fin de cet exposé, pour ensuite calculer des solutions de gouvernement. Et les économistes vont faire une OPA sur le droit, mais en fait, ça n'est pas tellement surprenant. Vous savez que la science économique est tout entière sortie du droit naturel dont je vous parlais, puisqu'en voulant découvrir les lois qui étaient établies non par les princes, mais par la seule raison, eh bien, ils ont découvert, comme Adam Smith, qui est un professeur de droit naturel, hein, c'est un professeur de droit, Adam Smith, vont découvrir des choses comme la loi de l'offre et de la demande. Et depuis lors, les économistes, eux, vont vers la formalisation. Ça ne s'est pas produit tout de suite, ça s'est produit tardivement au XXe siècle. Et pendant que les juristes semblaient rester du côté de l'interprétation, mais les économistes ont récupéré la chose et sur base, alors je vais vous demander de me faire confiance et ainsi pouvoir vous faire grâce de ce que je vais vous dire, de démontrer ce que je vais vous dire, mais sur base de la théorie des jeux telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît avec la publication de l'ouvrage de von Neumann et Morgenstern en 1945, après la guerre, dans Théorie des jeux et comportements économiques, et également un théorème de Coase, Ronald Coase, vous le voyez à gauche, c'est un prix Nobel d'économie. Je me suis dit qu'on était dans l'ambiance pour évoquer certains prix Nobel d'économie cet après-midi, et qui va formuler son théorème, et tout ceci va entraîner des changements considérables du droit dans la mouvance néolibérale des années 80, je vous disais, ne jamais séparer les formes de l'intelligence en droit et les projets politiques. C'est cela notamment qui, le théorème de Coase, a été la base de la construction du droit économique de l'environnement et notamment des marchés du carbone qui sont, si vous ne le savez pas, mais Ursula von der Leyen déjà cité l'a clairement indiqué, la pierre angulaire sur laquelle repose l'ensemble de la politique climatique de l'Union européenne, à quoi j'ajoute, c'est aussi l'instrument le plus utilisé dans le monde. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? C'est une autre question. Hein, mais ce modèle-là a terriblement influencé. Je vous en donne un exemple parmi d'autres. Et ici encore, les aspects de cette analyse économique du droit vont être intégrés par les juristes contemporains lorsqu'ils vont suivre, une fois de plus, l'évolution scientifique ou en tous les cas des techniques en empruntant le virage de l'IA, ce qui se fait beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait le penser. Vous vous rappelez, on a fait à plusieurs reprises un mini historique de l'IA et on a dit que ça avait commencé par des systèmes experts. En voilà l'exemple d'un système expert, un bout très simple, il s'agit de savoir si la politique d'une entreprise est conforme au règlement général sur la protection des données. Et donc, on met les règles dans un algorithme qui ensuite, par un système d'arbre de décision, va conduire à dire oui ou non, quel est l'avantage. Bon, on a dit que c'était très limité, certainement pour les scientifiques. Pour les juristes, c'est encore très très utilisé aujourd'hui pour les applications juridiques et ça va permettre de traiter par exemple des très grandes masses de documents pour dire conforme, pas conforme et aujourd'hui ça s'est tout à fait sophistiqué puisque les systèmes en réalité, les générations différentes d'IA sont en train de s'hybrider. Mais nous avons vu que la grande nouveauté, c'était les IA qu'on appelle connexionnistes, qui, à partir des années 90, alors en droit, ce serait plutôt les années 2000, établissent des corrélations statistiques afin de déterminer tout un tas de choses et notamment de faire ce qu'on appelle du profilage. Le profilage, c'est un outil de gouvernement majeur d'ores et déjà aujourd'hui, est problématique, nous le verrons. Vous rappelez que Stéphane Malat nous avait parlé de ses applications, nous avait donné l'exemple des chats et des chiens. On donne 1 million d'images annotées, c'est-à-dire que l'ordinateur, on lui dit « ça c'est un chat, ça c'est un chien », et puis on lui en donne 100 qui ne sont pas annotées, et lui dit « c'est un chat ou c'est un chien », on vérifie quel score il fait, donc quel est son taux d'erreur, et on arrive aujourd'hui, je parle sous son contrôle, à bien plus de 90% de réussite, ce qui est considéré comme un bon chiffre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise cela en droit? Ben, énormément. C'est notamment comme ça qu'on va faire la chasse aux fraudeurs. Donc, que ce soit la fraude fiscale, alors ça, ça aura une certaine popularité, n'est-ce pas? C'est un outil de recherche de la fraude fiscale. C'est tout à fait automatisé en Angleterre. C'est fait en France aussi. Je vous rappelle que Darmanin avait déclaré, si vous mettez en photo sur votre, à côté d'une Jaguar dans votre réseau Facebook, ne vous étonnez pas d'être contrôlé. C'est l'IA qui va déclencher. Vous avez un profil de fraudeur. Pourquoi? Parce que vous avez une voiture qui ne correspond pas au type de revenu que vous avez déclaré. Alors, le fait que vous ayez été à un salon des vos vieilles voitures de collection, etc., ça, l'IA ne le sait pas, évidemment. Mais de manière plus importante et plus dangereuse, je dois dire, pour les droits fondamentaux, c'est comme ça qu'on va déterminer les fraudeurs aux allocations sociales. Ici, je vous donne un exemple sur lequel je reviendrai, qui est le logiciel Siri, développé aux Pays-Bas, va donner lieu à une catastrophe industrielle, un de ces crashs que je vous avais annoncé. Mais c'est aussi comme ça qu'on trie par des IA dans les étrangers qui demandent un visa pour entrer dans l'Union européenne. On voit s'ils ont un profil d'étrangers dangereux ou indésirables, ou si, a priori, ils ne posent pas de problème. C'est aussi comme ça, et par rapport à, avec des scores, que l'on va déterminer qu'est-ce qu'il y a encore dans le privé, dans la banque, si on va vous accorder un crédit ou pas. Donc, par exemple, dans le profilage du mauvais payeur, donc à quel il ne faut pas attribuer un crédit, par exemple, vous ne devez pas, avant de demander un crédit, déménager deux fois dans la même année. Parce que ça, c'est très mauvais pour votre score de solvabilité. Hein? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un à risque. Donc, vous voyez, et pour, vous imaginez comment c'est fait, eh bien, c'est simplement, hein, de même que on ne sait pas très bien comment l'IA a fait son profil de chien ou de chat. On ne sait pas si c'est la taille des oreilles, on n'en sait rien, c'est la fameuse boîte noire. Eh bien, on ne sait pas très bien comment l'IA a mis au point son profil de fraudeur social, fiscal, étranger, dangereux, mauvais payeur et tout ce que vous voudrez. Et ça, c'est un problème sur lequel on va revenir très vite. Et puis, alors, vous avez les fameuses IA génératives, les grands modèles de langage qui sont utilisés maintenant de manière beaucoup plus d'ailleurs qu'ils ne veulent bien le dire par les avocats, voire même par les juges, qui sont des gens qui sont amenés à rédiger beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature grise. Des consultations, des conclusions, des plaidoiries, des jugements, bien sûr, etc., etc., etc. Et il y a même des livres maintenant, des manuels, l'IA pour juristes, etc., bien que ça pose des problèmes déontologiques, puisque, vous le savez, on a vu ça, ces IA ont une tendance à ce qu'on appelle en anglais les hallucinations, enfin je pense qu'il vaut mieux parler ici d'affabulation, dans lequel tel avocat va aux États-Unis, c'est un cas réel, prendre appui sur deux décisions magnifiques de jurisprudence, des précédents tout à fait convaincants, qui vont être utilisés pour dire au juge « voilà comment vous devez trancher l'affaire ». Et ces précédents étaient effectivement magnifiques, ils n'avaient qu'un seul défaut, c'est qu'ils n'existaient pas. L'IA les avait inventés. Et ce que n'a pas manqué de faire remarquer la partie adverse, évidemment, et les avocats, en l'occurrence, ont été condamnés pour contempt of court, et bon, aux États-Unis, dans la common law, on ne rigole pas tellement avec l'outrage à magistrat, ça leur a coûté assez cher. Et puis, on arrive à la dernière génération, qui en fait n'est pas encore là. Mais vous vous rappelez la phrase de Stanislas Dehaene qui disait, ça a été encore rappelé tout à l'heure, en IA, ce que vous avez dit aujourd'hui ne vaudra plus la semaine prochaine. Et donc, dans les travaux que nous faisons, nous essayons de deviner quelles sont les prochaines étapes, bien entendu pas en regardant chez les juristes, qui sont des clients en fait, mais en allant voir sur ce qui se fait, et ici, ce qui paraît intéressant, c'est l'IA agentique, c'est-à-dire, en fait, vous aurez plusieurs IA, vous avez la division du travail entre IA, avec un cerveau qui distribue les tâches, et puis des tâches différentes. Donc, par exemple, vous aurez une IA générative qui générera un jugement, une décision judiciaire, mais attention, non, une IA connexionniste qui décidera l'affaire, mais l'IA connexionniste, c'est une boîte noire. Donc, on ne sait pas comment il va raconter la chose. Et donc, on utilisera un modèle de langage qui, lui, va motiver la décision. Hein? Donc, c'est quelque chose qui ne va pas du tout, évidemment. Hein? Donc, vous avez un algorithme qui prend des décisions. Et puis, vous avez une autre IA qui ne sait pas du tout comment a été prise la décision, mais qui va motiver en disant « mais c'est pour telle raison, et telle raison, et telle autre raison ». Et les partisans de cela, qui sont nombreux, parmi les juristes aussi, c'est tout à fait étonnant dans la littérature, disent « mais les juges non plus, quand ils motivent leur décision, ne disent pas leur vraie raison, ça a été démontré par la littérature ». C'est vrai, mais que ce fait existe ne le rend pas légitime, et en plus l'algorithme, une fois qu'il... On doit absolument savoir ce qu'il fait, parce que s'il fait une fois une erreur, il fera tout le temps la même erreur. Et donc, ça, une erreur judiciaire, c'est un drame. Mais un million d'erreurs judiciaires, c'est une catastrophe sociétale. Hein, et nous verrons quelques exemples de crash. Et alors, je viens... je suis tard, je vais laisser passer l'idée qui a été soulevée notamment par Stanislas Dehaene, qui est de dire, mais au fond, une IA ne décide pas, une IA prédit. Mais ça dépend, quel est le plug que vous mettez derrière, en fait. Une IA, ça sera la même IA qui va faire les trois, ça dépend à quelle fonction vous l'utilisez. Si vous utilisez Waze pour dire « je suis l'autorité publique, je vais fermer cette rue, comment ça va influer sur le trafic ?» Eh bien, vous l'utilisez comme un outil de prédiction. Quand vous et moi, nous utilisons Waze, c'est comme une recommandation. Mais quand vous avez un véhicule autonome qui utilise Waze, c'est une décision. C'est le Waze décide du chemin. Ou alors, quand vous prenez un Uber, un véhicule Uber, parce que c'est contractuel, il est obligé de suivre le trajet de Waze, sauf si vous lui donnez expressément l'autorisation contraire. Et donc là, on rejoint un peu l'exposé de M. Brenet, un très bel exposé hier. On voit que le chauffeur Uber n'est plus que l'interface entre l'écran de son téléphone et le volant sa voiture. Il n'a plus aucune autonomie. Alors, que dit le droit de ça? Est-ce que le droit, effectivement, admet que ces IA soient utilisées par le gouvernement ou pas? Et là, il y a eu du changement. Les Français ont été les précurseurs mondiaux en 1978 avec la loi Informatique et Liberté qui a interdit les décisions automatiques. Entre parenthèses, si la loi les a interdites, c'est qu'elles étaient déjà possibles à l'époque, hein, 78, donc les systèmes experts, c'est ça qui était visé. Mais le fameux règlement pour protéger vos données personnelles ne fait pas que protéger vos données personnelles, il a aussi confirmé cette interdiction des décisions automatiques, mais, alors attention quand vous lisez des dispositions légales, c'est toujours les exceptions qu'il faut aller voir. Et il y a deux exceptions. Si vous êtes dans le privé, l'IA automatique peut être utilisée, les décisions d'IA automatique peuvent être utilisées si c'est pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous experts en droit, mais en gros, toutes les relations dans le privé que vous avez sont pour la conclusion et l'exécution d'un contrat. Quand vous allez sur le site d'un réseau social, vous agréez à ces conditions générales, vous êtes dans un contrat. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose pour ça. Donc, en gros, c'est autorisé dans le privé, pour dire les choses simplement. Dans le public, eh bien, c'est autorisé aussi, c'est interdit, sauf si l'État l'autorise. Et que font tous les États? Ben, ils ont pris une petite loi de deux lignes dans laquelle ils ont dit ben, « je l'autorise ». Et la France a renversé 50 ans de législation protectrice en disant ben, « les décisions automatiques sont maintenant autorisées, Mais il faut motiver d'une certaine manière, il faut quand même expliquer. Beaucoup disent c'est insuffisant comme garantie. Moi, je dis la France reste un des meilleurs élèves de l'Union européenne, parce que dans la plupart des pays, il n'y a rien. Donc, c'est autorisé. C'était interdit, c'était autorisé. L'IA Act, hein, on nous a expliqué, voilà, on va réguler l'IA en Europe, vous allez voir ce que vous allez voir, ce ne sera pas la folie du marché chez nous. Hein? Et donc, on a dit, d'ailleurs, il y a des choses qui sont interdites, Alexandra Samidou nous l'a rappelé, ça, le crédit social, non. Et puis alors, il y a des gens qui ont levé le doigt, qui disent, mais nous, on est des agences de notation de crédit, des agences bancaires, le crédit social, on fait ça toute la journée. C'est d'ailleurs sur ce modèle que les Chinois nous ont copié, c'est comme ça qu'ils ont créé leur crédit social. Hein? Ben, on va faire des exceptions. Hein? Et pour le reste, vous voyez qu'il y a des IA sans risque, et puis vous avez la catégorie haut risque. Donc au risque, vous dites, là, on va être protégé, les droits de l'homme, etc. Mais en fait, ce n'est pas une législation pour protéger les droits de l'homme, c'est une législation pour ouvrir le marché. Et donc, ça veut dire que les IA au risque, elles ne sont pas interdites, elles sont autorisées dans toute l'Europe et qu'aucun État ne peut les interdire. Aucun État ne peut les interdire, moyennant, attention, elles sont à haut risque, il faut donc une garantie. Il y a deux conditions, mais alternatives, c'est l'une ou c'est l'autre. Soit vous respectez le cahier des charges des normes techniques européennes. Très bien, ces normes n'existent pas encore. Donc, on attend. Soit vous mettez en place votre service qualité dans lequel vous allez garantir par vous-même, vous pensez, les entreprises savent mieux, vous pensez vous-même à ce qui serait bon de faire pour minimiser les risques. Et alors, vous pouvez apposer votre petite étiquette CE, exactement comme dans le col de ma chemise, et vous avez un passeport européen, vous pouvez la mettre dans toute l'Europe. Bon, c'est quoi les hauts risques? Alors, les hauts risques, c'est rien du tout. C'est l'éducation, l'emploi, les services publics, les allocations sociales, la police, la migration, l'asile, le contrôle aux frontières, la justice et les procédures démocratiques. C'est-à-dire, en réalité, tout ce que fait l'État. Donc, on ouvre au marché, non pas des produits pour le marché, on ouvre au marché des produits pour l'État. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pour autant que la France, par exemple, va devoir créer des juges robots? Et la réponse est non. Mais pourtant, ça va arriver. Pourquoi? Bien, parce que c'est les avocats qui vont acheter les logiciels. Et donc, ils vont venir avec des arguments que les moteurs classiques ne connaissent absolument pas. Vous savez, ces modèles sont assez performants pour produire des arguments, bons ou mauvais. Mais enfin, il y en a de bons. Et sur base d'une connaissance approfondie de toute la jurisprudence qui a été numérisée par obligation, par une loi française. Et donc, une fois que les avocats se seront battus à un niveau très élevé, j'en ai pas le temps pour que je vous en donne un exemple, eh bien, une fois qu'ils se seront battus au niveau très élevé, eh bien, le juge va dire, maintenant, moi, je dois trancher et je dois leur répondre de manière motivée. Donc, monsieur le ministre, est-ce que je pourrais, monsieur le garde des Sceaux, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'acheter le même logiciel, hein? Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, tout ça pose des sérieux problèmes au niveau de l'état de droit, notamment les problèmes de motivation. Hein? Alors les juristes se sont plaints d'abord d'avoir des motivations à la manière des informaticiens, c'est une vieille décision du Conseil d'État belge de 2004 que je vous laisse lire si vous avez envie de vous amuser, et en fait c'est assez amusant puisque les juges annulent une décision parce qu'elle est motivée à la manière des informaticiens, alors que vous savez que le galimatia des juristes n'a rien envié à celui des informaticiens, mais là, tout d'un coup, il trouve que c'est étranger à tout honnête homme. L'informatique, c'est étranger à tout honnête homme, mais le jargon juridique, non. Ceci dit, au-delà de l'humour, c'est un vrai problème. La motivation, c'est obligatoire de motiver une décision. Hein, parce qu'elle qui produit des effets sur les droits des gens. Hein. C'est quoi les effets sur les droits des gens? Vous avez droit à une allocation de chômage, vous pouvez ouvrir votre boutique ou vous ne pouvez pas l'ouvrir, vous pouvez construire votre maison, vous ne pouvez pas la construire. Ouais, c'est un peu important. Hein. Vous pouvez reconnaître votre enfant ou vous ne pouvez pas le reconnaître. Bon, et donc le premier problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas. pour les IA connexionnistes. On ne sait pas pourquoi l'un c'est lui, non c'est non, l'autre c'est non. Et en plus, les logiciels privés invoquent la propriété intellectuelle du logiciel. C'est le cas dans l'exemple qui va suivre. Et enfin, on nous dit, l'administration nous dit, dans beaucoup de pays, en France ça va mieux, en fait on ne va pas vous dire comment fonctionne notre logiciel parce que vous pourriez ruser et avec et faire en sorte d'y être conforme. Et c'est une excellente idée évidemment. Donc on ne va plus publier les lois non plus. La limite de vitesse, ne publions plus la limite de vitesse. Et comme ça, eh ben, les gens verront bien quand ils recevront leur amende à combien il fallait rouler à cet endroit-là. C'est quand même simple. C'est juste la contradiction du principe fondamental du droit moderne tel que l'expliquait Kant. La règle fondamentale du droit moderne, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas la liberté non plus, c'est la publicité. C'est-à-dire qu'il faut que les règles soient connues, sinon elles sont nulles. Eh bien là, on nous dit non, il vaut mieux que vous ne sachiez pas. Hein ? Ben, c'est bien comme ça, on ne peut pas s'adapter. Mais 100% des décisions pour faire une enquête fiscale sont déterminées par l'algorithme dans certains pays, dont le mien. Et en réalité, ça ne vous sert plus à rien de connaître la loi pour savoir « je ne veux pas frauder, donc je vais respecter la loi ». Mais le problème, ce n'est pas respecter la loi, ce n'est pas vous trouver dans les conditions où l'algorithme estime que vous êtes un fraudeur. C'est tout à fait différent. Hein ? Donc, y a un autre problème, mais je vois que le temps file, le problème que vous utilisez des algorithmes qui, de manière très claire, ne sont pas adéquats pour leur but. Donc, dans Parcoursup, comme dans Admission Post-Bac, on utilise un algorithme de Gayle Chapley qui est excellent pour appairer les couples. Alors, je ne vous fais pas la démonstration politiquement incorrecte pour les mariages tables, mais ça vaut pour tous les couples, pour les étudiants et les universités. Et là, en réalité, ça marche très bien quand les gens ont des préférences différentes. Hein? Mais si vous êtes dans un monde où toutes les femmes rêvent d'avoir une relation stable, on va dire, avec George Clooney, et que tous les hommes rêvent d'avoir une relation stable avec... comment elle s'appelle encore Je vois que vous avez suppléé dans vos fantasmes. Eh bien, disons Angelina Jolie, eh bien, vous allez avoir un système dans lequel, à la fin, George Clooney et Angelina Jolie vont se marier ensemble. Et puis, les autres, les pas beaux comme moi, eh bien, ils se marieront avec les pas belles. Hein ? Et donc, ça s'appelle un effet d'élitisme. Donc, quand les préférences sont les mêmes, il y a un effet d'élitisme. Et donc, qu'est-ce que ça produit comme résultat, Gayle Chapley ? C'est que, évidemment, les meilleurs étudiants vont dans les meilleures écoles. Et donc, il y a un effet d'élitisme. Sauf que quand vous lisez la loi, il vous dit, attention, nous ne voulons pas poursuivre un objectif élitiste. Et donc, vous avez un problème de l'égalité de l'algorithme. Parce que vous utilisez un algorithme dont la littérature informatique, mais que ne lisent pas les juristes, pensez bien, vous explique qu'il a un effet élitiste dans certaines circonstances, alors que c'est contraire à la loi. Hein, vous voyez qu'il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on arrête de se tourner le dos. Un énorme problème qui est bien connu, c'est celui des discriminations. Donc, vous avez l'algorithme Compass, qui est un algorithme américain qui est utilisé pour prédire le risque de récidive dans l'année de quelqu'un qu'on envisage de mettre en prison ou qui est en prison. Et ça va déterminer, ça va aider le juge à décider s'il le libère conditionnellement ou pas. Et cet algorithme est secret. Il y a 137 paramètres, mais c'est secret, c'est protégé par le droit de propriété intellectuelle, je vous en parlais il y a 2 minutes. Et donc vous aviez quelqu'un qui était un monsieur afro-américain qui était poursuivi pour une infraction relativement mineure dans une affaire très grave, mais le plea bargaining avait fait que lui était seulement poursuivi comme chauffeur. C'était une attaque à main armée sanglante, un truc affreux. Et le juge a utilisé, comme la loi au Wisconsin lui en fait l'obligation, il a consulté le logiciel qui lui a dit « ça c'est un 100% récidiviste », du coup il lui a mis une peine énorme. Et Loomis a essayé d'avoir une peine moindre, c'est rare qu'on prononce des maximums, vous avez eu des débats récents dans les médias, vous connaissez cette question dans les affaires célèbres, c'est rare qu'on... Et donc il a fait appel et il a demandé à avoir le code de cette application qui le considère comme un 100% récidiviste. Ah non, on lui a refusé parce que c'est couvert par la propriété intellectuelle. Ça, c'est une pierre dans le. C'est une question à régler par Alexandra. Je ne vais pas plus loin. C'est évidemment inacceptable dès lors qu'il s'agit de porter atteinte à un droit fondamental, c'est-à-dire de connaître la raison pour laquelle on a été condamné à une peine. Vous le voyez. L'algorithme Siri, lui, alors l'algorithme Compass, il prévoit un taux de récidive qui est de faux positifs. Hein. Donc, il prédit des gens qui vont récidiver dans l'année et il prévoit des faux positifs. Il était sûr que les gens allaient... récidiver, mais en réalité, ils se trompent. Eh bien, c'est 23% de faux positifs. Bon, mais si vous êtes de couleur noire, c'est 46% de faux positifs. Donc, il est discriminatoire à l'égard des personnes de couleur noire. Les informaticiens se sont passionnés pour cette question, ce qui fait qu'on a beaucoup de données, et son niveau de performance est environ 65% dans la prédiction. C'est-à-dire, 65%, c'est pas mal. Sauf que, un, si moi je prends l'algorithme pile ou face, j'ai déjà 50% de chance. Hein ? Donc, c'est 15% de mieux que le hasard, et deux, c'est moins bien que les juges humains, qui, eux, font de l'ordre de 70 à 75%. Il est temps de conclure, car on me fait signe, et c'est bien vrai que le temps est écoulé, et donc je vous passe des choses passionnantes, et je conclue par ce précepte emprunté à la médecine et au serment d'Hippocrate, « primum non nocere ». Est-ce qu'on peut utiliser des applications d'intelligence artificielle pour gouverner et pour rendre la justice? La réponse est oui. Mais est-ce qu'on le veut? La question a déjà été très bien posée par l'oratrice précédente. On ne doit pas faire tout ce qu'on peut faire. Hein? Moi, je peux faire des tas de choses, mes enfants aussi, mais je préfère qu'ils fassent pas tout, en tous les cas, pas tout d'un coup. Hein? Et donc, ce qu'il faut, c'est faire montre de beaucoup plus de prudence. J'ai échangé avec le professeur Xavier Leroy qui me parlait des garanties de sécurité dans les logiciels d'avion. Nous voici au moment de l'atterrissage. Pour éviter qu'ils ne se crachent, ça marche pas toujours, mais c'est très robuste. Vous inquiétez pas, pour ce qui concerne vos droits fondamentaux, là, les procédures de sécurité sont totalement inexistantes et on se crache très régulièrement. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.